des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, deux écrivains qui célèbrent chacun à leur manière le goût de la fantaisie, sur le mode de la comédie noire et contemporaine avec Régis Jauffray, ou à la façon d'un pas de côté rétrospectif par rapport à la grande histoire des pays de l'Est, en l'occurrence la Bulgarie, avec le tout premier roman d'Elitsa Gorgieva. Bonjour Régis Jauffray.
Bonjour.
Fantaisie noire, en effet, dans ces cannibales que vous publiez au Seuil et qui signent votre abandon des faits divers violents adossés à l'histoire contemporaine. Je pense à la balade de Rikers Island où vous narriez la descente aux enfers d'un homme politique puissant, plombé par ses appétits charnels, mais aussi à Clostria, roman centré sur l'affaire Joseph Fritzl. Avec Cannibal, vous semblez opérer un retour à la fiction pure en imaginant la relation épistolaire entre deux femmes qui sont liées par un homme. D'abord, il y a sa mère, Jeanne, et puis celle qui a partagé sa vie, Noémie, avant de rompre avec lui. Deux femmes qui vont tisser une sorte de liaison dangereuse débouchant sur un projet assez singulier. Dévorer cet homme, oui, le manger, cet homme que vous appelez Jauffray, c'est évidemment un hasard, ça ne s'écrit pas pareil. Après plusieurs romans consacrés à des faits divers, aller aussi loin dans la fantaisie et l'imaginaire, est-ce que c'était pour vous, Régis Jauffray, l'expression d'une forme de libération de la tutelle ou peut-être de la prison du réel?
Oh, pas du tout, parce que les livres dont vous parlez, c'est une fantaisie totale et c'était la fiction totale. C'est bien pour ça qu'on me le reproche, parce que tous les livres contemporains, il y en a, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des romances qui partent de faits divers, comme justement ils restent sur le plancher des vaches et dans le sérieux absolu des choses, il n'y a aucun problème. Ce qui ne passe pas, c'est la dérision et la langue et l'humour. Je pense que c'est ça qu'on m'a reproché.
Sauf que vous dites fiction pure, mais c'était quand même basé précisément sur le
fait
réel. Rikers Island, ça disait beaucoup de choses aux lecteurs de l'actualité immédiate.
Ouais. Absolument. Non, mais je veux dire, c'est, vous savez, je crois que j'ai enfreint un sort de tabou parce que Valérie, qui n'avait pas la langue dans sa poche, disait qu'il y a pire que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Et je pense que sans le vouloir, j'ai réalisé cet idéal du vrai et du faux, c'est-à-dire de l'imaginaire et de choses vraies que je suis allé chercher sur le terrain. Et ce mélange-là, je me suis aperçu qu'il était absolument explosif et inadmissible. Mmh. Voilà, je pense que c'est ça le fond du problème.
Donc c'est pour ça qu'on vous a, enfin que la justice s'en est pris à vous, en fait.
Voilà, la justice s'en est pris à moi. Déjà, j'avais eu l'Autriche qui s'en était pris à moi et qui m'avait pas fait de procès. Puis là, on s'en prend à moi en France et on me traîne en justice en France.
Alors vous en êtes où d'ailleurs dans ces affaires de justice suite à la publication de la balade de Rikers Island?
Voilà, je suis en appel le 15 décembre. Voilà.
D'accord, très bien. Très bien. Bonjour Elitsa Gorgieva. Alors vous êtes en train de publier, enfin il est publié, ce premier, tout premier roman, Les cosmonautes ne font que passer, c'est aux éditions Verticales. C'est un livre qui retrace la jeunesse d'une petite fille d'abord, puis d'une jeune femme ensuite en Bulgarie, dans la Bulgarie des années 80, puis juste après 89. Est-ce que 89 ne signe pas la fin des années 80? Par définition oui, mais en l'occurrence en plus à côté de la Bulgarie il y a eu la chute du mur de Berlin. C'est donc un environnement soviétique puis post-soviétique que vous décrivez, aussi réel que fantaisiste, dans la façon qu'a la petite fille de s'inventer des fictions, notamment l'envie de devenir cosmonaute et, comme vous le dites, de s'enfuir dans des galaxies nouvelles où la dictature communiste n'avait pas encore été inventée. En effet, l'élément fondateur de ce récit, c'est le souvenir du grand cosmonaute Youri Gagarin, qui était venu planter des sapins dans l'école de cette petite fille, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait... Là, pour le coup, c'est un fait tout à fait réel, puisque je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, mais les cosmonautes venaient planter des sapins, comme ça. C'était un rituel communiste. Et il se trouve que c'est complètement un hasard aussi, mais il se trouve que c'était mon école. Et j'ai un petit peu agrandi dans cette allée des cosmonautes, où il y avait... C'était comme un petit forêt de sapins, rien que pour nous.
Voilà. Tendu voilà. Vers les étoiles. Alors, ce souvenir de Gagarine, c'est la mère de l'héroïne qui lui raconte dans les premières pages de ce roman. où va se déployer toute une partie de cette histoire d'un monde qui était sous cloche à l'époque et qui est raconté à hauteur de petite fille, nous laissant vérifier un peu plus l'exactitude de la phrase de Cocteau. L'enfance croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Quoique, car à mesure que l'on tourne les pages de ce roman, la façon qu'a l'héroïne de grandir, eh bien les doutes vont prendre de plus en plus d'importance en elle, d'autant que les évolutions politiques du pays sapent les fictions qu'elle s'était construite. Et finalement, on va basculer avec vous, Elisa Yorgieva, dans un monde où l'héroïsme de Yuri Gagarin cède la place à celui de Kurt Cobain, qui est un peu le nouveau mythe pour une jeunesse qui rencontre un nouveau réel.
Oui, c'est un nouvel idole qui n'est pas du tout, qui est très très différent que le premier. Et c'est un nouveau monde qui arrive et qui en fait le conflit de ces deux mondes, on va dire, ça va donner un paysage complètement incohérent et très très absurde en soi.
En tout cas, très riche romanesquement. Et c'est ce qui est intéressant dans votre roman, le réel est traité, on en parlait avec Régis Geoffrey, comme une fantaisie. Enfin, c'est l'impression que je m'en fais. Au fond, les événements ont assez peu d'importance. C'est le regard qu'on porte sur eux qui détermine tout. Par exemple, la conquête spatiale, pour votre héroïne, elle est tout de suite métamorphosée en conquête spéciale, comme les enfants se font souvent d'autres mots de ceux qu'on emploie devant eux. Et donc, ça ouvre vers un imaginaire, au fond, beaucoup plus riche que la réalité. Est-ce que vous étiez, vous, déterminé, dès le départ, à traiter cette page d'histoire, cette initiation, sur le mode de la fantaisie? Je pense au titre de chapitre, Berlin n'est pas un homme, les kung-fu ninjas attaqueront à l'aube, comment ne pas devenir Sylvie Vartan, qui était bulgare, je rappelle qu'il l'est toujours d'ailleurs certainement, je ne sais pas où elle en est dans ses demandes de nationalités diverses. Mais il y avait dès le début la volonté de traiter ça comme une fantaisie, sur un mode une fausse naïveté peut-être?
Oui, c'était vraiment le choix de départ. C'est-à-dire qu'à la fois, j'avais assez envie de raconter un petit peu l'histoire de ce pays qui est complètement inconnu. La Bulgarie, on ne sait rien. Donc, à la fois, c'est très agréable puisque donc, je pouvais raconter ce qu'en partie j'ai vécu. Et en même temps, je pouvais inventer ce que je voulais puisque précisément, on n'a aucune référence concrète en France. Donc, c'est vrai que l'univers de l'enfance, ça permettait d'ouvrir sur un champ beaucoup plus fantaisiste et décalé. Le jeu de mots avec spécial, c'est aussi cette place où on se trouve quand on est enfant, où on ne peut pas aller plus loin que les mots qu'on comprend pas, et donc on va être obligé d'inventer autre chose. Donc c'est vrai que c'était entre ces deux registres de vrai et de faux d'ailleurs. Que se situait le projet.
Voilà ce que disait un peu Régis Geoffrey. Bienvenue à tous les deux, en tout cas dans ce temps des écrivains. Si je vous ai réunis, c'est qu'en vous lisant, j'ai pensé à cette phrase de Shakespeare dans Le songe d'une nuit d'été. « Les amoureux et les fous ont la cervelle si effervescente, la fantaisie si inventive, qu'ils conçoivent beaucoup plus de choses que la froide raison n'en peut comprendre. » Est-ce que la littérature, pour chacun de vous, est une manière d'aller explorer précisément plus loin que la réalité? Au fond, d'échapper aux règles peut-être plus étroites, plus vraisemblables de la raison?
C'est-à-dire que moi, j'ai jamais su qu'il y avait des limites. C'est-à-dire, je viens d'une époque où, justement, il n'y avait plus de limites. Donc, pour moi, il n'y a aucune limite. La littérature est sans limite. Et moi, je suis absolument illimité sur le plan intellectuel. Donc, c'est même pas une volonté d'audace. C'est que je suis assez étonné toujours quand on me dit, mais vous êtes allé loin. Parce que je me rends pas compte de ça. Parce que, à mon époque, j'ai connu une époque très reculée où, par exemple, Sade.
Vous avez connu l'époque de Sade.
J'ai connu l'époque de Sade, surtout l'époque de Sade où Sade, dans les librairies, était dans un petit placard fermé. Et quand ça a été ouvert, il y a eu un moment où il n'y avait plus de censure. Et,
c'est Pauvert, d'ailleurs, qui avait republié.
C'était Pauvert. Et d'ailleurs, Régine Desforges se retrouvait au tribunal toutes les 5 minutes et on l'injuriait, un juge l'a traité de salope. Donc les retours vers les tribunaux, les retours vers ce côté « vous allez trop loin », moi je savais pas qu'on pouvait aller trop loin depuis mon adolescence.
Mais sur ce rapport au réel, je parlais d'aller trop loin, par rapport aux limites morales, mais aux limites du réel, du vraisemblable.
J'ai jamais eu de limite avec le réel, j'ai pas tellement de frontières. Je pense qu'en réalité, il y a chez certaines personnes peut-être une façon d'être fou sans l'être, parce que la folie on n'en revient pas. Alors peut-être qu'il y a certains écrivains qui sont dans la folie mais qui en reviennent parce que dans la folie on ne peut pas écrire. D'ailleurs Artaud qui s'était toujours plaint des... Moi je suis pas au stade d'Artaud, c'est pas ça, c'est pas sur un plan médical que je me plaçais, mais pour parler d'Artaud qui s'est toujours plaint des électrochocs, en fait quand il avait des électrochocs et donc il était un peu soigné, c'est les moments où il a écrit, ce qui n'enlève rien aux tortures qu'il subissait de par sa maladie. Mais je pense que souvent les artistes, c'est ce privilège de mettre un orteil dans le monde de la folie et de pouvoir en revenir et de pouvoir raconter ce qui s'y passe. Mais moi, à nouveau, je n'ai absolument pas conscience de l'extraordinaire.
C'est-à-dire, c'est intéressant, vous mettez, quand je vous dis réel, en fait, vous m'opposez folie et pas, par exemple, imaginaire ou fiction.
Mais c'est-à-dire, pour moi, c'est un peu la même chose. Ouais. Pas beaucoup de différence.
Entre quoi ? La folie et l'imaginaire ?
C'est-à-dire que je comprends rarement de quoi ça parle. C'est pour ça que je dis que pour moi il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que je comprends pas bien la différence. Parce que par exemple des auteurs comme Proust qui paraissent des auteurs très racis, il était complètement cinglé, Proust par exemple. Donc moi les auteurs que je connais, il n'y avait pas cette limite entre le rationnel et ce qui n'était pas.
Elisa Georgieva.
Oui, pour moi, c'est vrai que c'est important aussi de brouiller les limites entre ce qu'on peut appeler le réel et l'imaginaire ou le fictif. Même en cinéma, ce qui est ma première formation.
Oui, car vous êtes réalisatrice et vous terminez votre deuxième film.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est là où je me situe en cinéma, c'est ce qu'on appelle le documentaire de création. C'est-à-dire, justement, on n'est jamais vraiment que dans le réel. Il y a toujours une manière, enfin, en tout cas, une tentative de dépasser ça et d'aller justement aussi vers la fantaisie. Et après, je pense que même dans la vraie vie, ces limites ne sont pas si claires que ça, si nettes que ça. Moi, je viens d'un pays où la situation est déjà assez absurde. Donc, parfois, il suffit juste de regarder. Par exemple, la dernière fois que j'étais en Bulgarie, j'étais dans un embouteillage et sur la voiture devant, il y avait une espèce d'étiquette collée sur le capot et c'était marqué « Ce pays n'existe pas » avec les contours de la Bulgarie. Et je pense que voilà, c'est aussi une manière bien sûr de se moquer.
C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'était le slogan dans une des biennales de Venise, pas la dernière, celle d'avant, « Ton pays n'existe pas ». D'ailleurs, le « tu », vous utilisez le « tu ». C'est le slogan du pavillon islandais, de l'artiste qui avait travaillé autour de cette notion. « Ton pays n'existe pas ». Donc vous voyez, là, l'art et la réalité s'étaient rejoints visiblement en Bulgarie.
C'est exactement ça, mais je pense que nous, c'est vrai qu'on se le dit souvent, enfin on se dit souvent, mais est-ce que c'est vraiment possible tout ce qui nous arrive et est-ce que c'est vraiment la réalité ? Alors voilà, on peut s'interroger sur qu'est-ce que le réel, mais je pense que voilà, il est important quand on est artiste d'essayer de transcender en tout cas ça.
C'est intéressant, il y a une scène, une des dernières scènes en fait de votre roman, Elisa Georgieva, où l'héroïne voit son grand-père qui est dans la neige devant un sex shop et vous décrivez aussi un bras armé d'une faucille et d'un marteau et donc on est vraiment là dans la confusion entre deux mondes. Geoffrey parlait de brouillage tout à l'heure, on est totalement là-dedans.
Oui, et c'est aussi plein d'autres éléments qui s'entrechoquent, comme ben voilà, le sex shop à la fois, c'est un petit peu le symbole de la nouvelle démocratie où il n'y a plus de censure et on est très satisfait et épanoui. Et en même temps, ben, il y a toujours le bras en train de rouiller et qui tient le fossile et le marteau. Et je pense que c'est vrai que voilà, c'est un mélange de différents univers. Et voilà.
qui définit ce genre de pays aussi. Voilà, ça a été une utopie aussi.
Oui, voilà. Enfin, et là,
utopie,
on est
c'est
en
un
pleine...
lieu qui n'existe pas, étymologiquement.
Exactement. Enfin, là, on est presque dans une dystopie, ou en tout cas, c'est un monde qui est en train de se déconstruire de toutes ses valeurs. Et c'était aussi ça, enfin, ce grand-père qui est là, en train de regarder ces éléments. En fait, voilà, il n'a plus du tout sa place dans ce nouveau monde. Et en même temps, il y a la petite fille qui est de plus en plus en train de s'éloigner.
Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre ? Je vais d'abord me tourner vers Régis Geoffrey sur le véritable empire que semble avoir pris en France, comme aux États-Unis peut-être, mais en tout cas c'est arrivé en France, ce qu'on appelle la faction, c'est-à-dire le mélange de fiction factuelle. Le fait d'écrire sur le réel comme si la littérature aujourd'hui avait besoin de la béquille du réel, peut-être parce que le lecteur le demande. Jean-Baptiste Delamo, qui publie un roman dans cette rentrée, disait dans cette émission au début de l'année, il y a dans la littérature aujourd'hui une véritable tyrannie du réel. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Géjo?
Je pense qu'il y a une question à poser, c'est la médiocrité. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui en ont besoin par pure nullité. en réalité. Parce que quand on les entend parler, s'ils n'avaient pas la béquille de ces espèces de faits divers qui finalement ne gênent personne, parce qu'alors ils les ont mélangés, un peu ça me fait penser à une recette de meringue, un peu, ils sont arrivés, alors ils vous racontent. S'il n'y avait pas ça, ils n'écriraient pas. Donc je pense qu'il y a cette grande médiocrité dans laquelle beaucoup de gens s'engouffrent. C'est pas le cas de tous, hein. Ça c'est pas... Et je fais allusion à personne, c'est vraiment quelque chose de général qui me frappe. Parce que quand il y a quelque chose de réel, déjà, ça permet déjà d'avoir quelque chose à dire quand on passe dans une radio ou dans une télévision. Et puis surtout, ça sert aussi d'excuse. Parce qu'on dit, ah mais oui, mais ça s'est vraiment passé, c'est vraiment un personnage qui a existé, puis ça s'est passé comme ça, etc. Je pense qu'il y a ça, c'était un peu la providence des gens qui, en fait, n'ont rien à faire dans le roman, mais il y en a toujours eu. Et là, il y avait un moment, c'était l'obscurité, à l'époque du nouveau roman, racontait un peu n'importe quoi. Et là, c'est devenu le fait divers. Je pense que c'est pas une tyrannie des lecteurs, c'est plus ou moins une mode, comme il y en a toujours eu. Les écrivains qui n'ont pas un univers vont vers la mode, et là, c'est très commode. Donc je pense que s'il y a par exemple des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui ont des problèmes de réussite, je pense qu'ils peuvent très honnêtement se lancer dans la littérature et que la recette actuellement, c'est de prendre un fait divers quelconque. Alors pas très connu, c'est beaucoup mieux. Pour pas être attaqué, il faut prendre des gens démunis. Parce qu'il faut des avocats pour attaquer quelqu'un. Et à ce moment-là, il y a déjà une ombre de littérature, puisqu'évidemment, il y a une vie, il y a des faits de vie, donc il y a un sujet et donc il y a un scénario. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on peut faire des choses sublimes avec la recette que j'ai donnée. Mais ce n'est pas le cas
oui,
toujours.
Parce que je vais vous embêter, Geoffrey, mais l'homme qui nous dit ça, là, à l'instant présent, est aussi l'homme qui sait, même si vous l'avez expliqué, mais qui a pris quand même du fait divers. Rikers Island, c'était un fait divers politico-sexuel. Clostria, on était en Autriche et c'était une affaire aussi familiale d'enfermement, de dépendance, de torture. C'était aussi du réel. C'est une affaire, l'affaire Fritzl, tout le monde en avait parlé. C'est vrai qu'on se dit, bon, il est sympa Geoffrey, mais...
Non, mais là, c'est très désagréable de parler de soi, mais j'ai parlé de la médiocrité, et par manque d'humilité, je me mets pas dedans. Ça, c'est un premier point, mais on se voit pas. Hein. Mais deuxièmement, moi, on a dit fait divers. Pour prendre le premier Clostria, moi, j'ai pensé à la caverne de Platon. C'est un fait qui est pas divers, c'est un fait unique dans l'histoire, puisque avoir la télé, le réel, voir le réel à la télé et ne pas être dans le réel, c'est unique dans l'histoire, c'est la caverne de Platon, mais Platon savait pas que la télé existerait un jour. Quand à l'affaire Rikers Island, qui fait beaucoup rire en France, ça ne fait rire qu'en France, parce que c'est très, extrêmement grave sur le plan même du commerce international, parce que la France et l'Europe a failli perdre le FMI. C'est uniquement Angela Merkel qui l'a rattrapé, c'est pas drôle du tout. Je veux dire, sur le plan géopolitique, c'était vraiment un conflit économique. Barack Obama a essayé de reprendre.
Et c'est ça qui vous intéressait aussi, cette dimension-là.
Ouais. C'est une dimension extravagante. Il n'y a qu'en France où on a une sorte de sympathie, on parle de vie privée. Non, c'est extrêmement grave. Je finis pour être peut-être dans le grandiloquent, mais c'est comme quand on assassine Franz Ferdinand et que ça déclenche de fil en aiguille une guerre de 14. Là, ça a déclenché réellement, sur le plan géopolitique, une guerre monétaire, une guerre économique, sur le pouvoir économique du monde.
On va continuer avec vos livres, on va se plonger dans Cannibale, Régis Geoffrey, que vous publiez au Seuil. D'abord, on écoute votre choix musical, vous avez choisi Billie Holiday, I Can't Get Started.
Started with you.
Billie Holiday, I Can Get Started, c'est le choix musical de Régis Geoffrey qui publie Cannibal, son nouveau roman, aux éditions du Seuil. Pourquoi ce choix musical, Régis Geoffrey?
Parce qu'il y a des chanteurs et des chanteuses, et puis il y a des chanteuses, en l'occurrence, qui chantent de l'au-delà. On ne sait même pas d'où cette voix peut venir, on n'en a jamais entendu d'autres comme celle-là, et on n'entendra jamais d'autres. Comme ça, c'est un phénomène unique. On se demande si elle vient du fin fond du cosmos ou du fin fond de la métaphysique.
Pourquoi elle vous évoque l'au-delà, le métaphysique ?
Parce que c'est une voix extraordinaire. On dirait qu'il y a des choses dans cette voix. Et moi, je dirais presque, alors là, je reste dans la métaphysique, que c'est une sainte. On a l'impression que c'est pour ça que l'humanité existe. Pour qu'il y ait des voix comme celle de Billie Holiday, qu'il y ait des œuvres comme celle de Proust ou de Dostoïevski. On dirait que l'humanité se justifie par des phénomènes pareil que la voix de Billie Holiday.
Alors rarement en littérature, l'expérience de la haine n'a été aussi proche par le sens de l'engouement, voire de la délectation, que dans ce Cannibal, votre nouveau roman, Régis Geoffrey. On découvre à sa lecture que non seulement on peut haïr avec passion et jouissance, mais qu'un sentiment dont on dit qu'il est dévorateur peut l'être au sens propre. Alors dans Cannibal, qui est un roman épistolaire, on dévore par les yeux, puisqu'on est lecteur, la correspondance entre deux femmes, Jeanne et Noémie, qui se détestent cordialement, mais qu'une haine soudaine pour le même homme va rapprocher, au point que, après s'être cordialement insultées à travers leurs premières lettres, elles vont s'unir dans un projet commun, tuer Geoffrey, donc le fils de Jeanne et l'ex-petit ami de Noémie. Mais le fantasme dans ce livre, il va plus loin puisqu'il s'agit de dévorer cet homme qu'on hait, d'en faire finalement le mets d'un festin d'ogresse. Et ce délire funeste s'élabore tel un bon plat à travers vos pages, à coups d'idées fumantes que les deux assassines en puissance s'échangent donc à travers leurs lettres. C'est d'abord sur cette forme que je voudrais vous interroger, Régis Geoffrey. Comment est-elle née, cette forme, le fait d'écrire cette histoire à travers l'échange de mots entre deux femmes par lettre, à une époque où précisément la nôtre, le papier est a priori déconsidéré. D'ailleurs, vous en parlez. On s'envoie des mails, on s'envoie des SMS, on s'écrit assez peu.
C'est devenu quelque chose... En fait, l'écriture manuscrite sur le papier est devenue malhonnête. Parce qu'en réalité, qui se sert de papier et d'encre, c'est la mafia. Et plus proche de nous, en France et ailleurs, les ententes illicites entre sociétés se font sur un cahier. C'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas de mail, pas de SMS, parce que à partir du moment où vous écrivez un mail, il est stocké dans je ne sais combien de serveurs dans le monde, et ça se fait sur une feuille de papier. Et deuxièmement, il y a aussi ce fait-là, qui est assez étrange, auquel on ne pense pas, c'est que seul restera le papier, bizarrement. Parce que tout ce qui n'est pas important, considéré comme important, va s'effacer. Moi, j'ai écrit beaucoup de textes sur des disquettes qui sont perdus, parce qu'un jour, je les ai jetés, j'avais plus d'appareil pour les lire.
Exactement, voilà, ça c'est disons l'obsolétisation, je ne sais pas comment on dit, des moyens de lecture justement technologiques. J'aimerais qu'on vous entende lire, Régis Geoffrey, un passage, ce Cannibal. J'ai choisi un passage au début, c'est le moment de la haine d'ailleurs entre les deux femmes qui s'écrivent, on ne sait pourquoi, en s'insultant.
Je vous crois folle. Quitter mon fils ne peut être le fait d'une personne jouissant de toutes ses facultés. Vous me rappelez cette institutrice qui autrefois ne cessait de lui coller des notes très au-dessous de la moyenne et qui présentait les mêmes envies que vous. J'avais prévenu en vain la directrice de sa fragilité mentale qui l'a poussée à dévaloriser le travail de Geoffrey. L'avenir m'a donné raison. Elle n'a pas attendu la fin de l'année scolaire pour périr dans un incendie, une explosion de chauffe-eau. Préférer le gaz à l'électricité, n'est-ce pas là une irréfutable preuve de démence? Autant se chauffer avec une bombe. Soignez-vous. D'après Geoffrey, votre talent est réel, mais par démagogie, son regard aura embelli vos toiles pour lui donner une raison de plus de vous aimer. Si je les avais vues, je les aurais trouvées gauches. Sans génie, pratiquer un art est une forme d'escroquerie. Ils sont des fripons, ceux qui embrassent la carrière, et qu'ils ne sont pas Michel-Ange, La Fontaine, Mozart ou Vauban. Au fond de vous, il y a sûrement un filet de voix pour vous traiter de fripouille et miner lentement votre raison. À 24 ans, déjà vous n'en avez plus guère. Bientôt, vous entendrez le bruit sinistre de la démence toquant à votre crâne et vous réglerez la nôtre de votre médiocrité. Pour chaque touche de couleur, ce seront des jours d'angoisse, des nuits de délire, des années de désespoir. Toutes ces souffrances qui peuplent l'enfer des fous.
Merci Régis Geoffrey, donc extrait de Cannibal, votre nouveau roman qui paraît au Seuil. On pense évidemment aux liaisons dangereuses avec un petit ton précieux aussi hein, dans ces lettres, en tout cas au début. Est-ce que vous vouliez vous ancrer le lecteur dans un imaginaire 18e un peu contemporanéisé, mais qu'on y pense en tout cas, à cet âge d'or de la littérature épistolaire?
Peut-être qu'inconsciemment, j'ai répondu à une urgence absolue actuelle. Je pense que l'urgence absolue, c'est la langue. Je pense que l'urgence absolue, c'est de disposer de tout le vocabulaire pour s'exprimer. Je pense que une des réponses au terrorisme, c'est le langage. Parce que plus un État devient terroriste, plus une idéologie est terroriste, moins elle a de mots. C'est vrai pour le terrorisme politique et c'est vrai pour le terrorisme consumériste. C'est-à-dire, ce que veulent les grandes entreprises, c'est qu'il n'y ait plus de mots, qu'il y ait des slogans. En ce qui concerne l'oppression, c'est toujours ça. Et je pense que c'est le langage dans toute son ampleur qui peut nous protéger de ce terrorisme, parce que les terroristes, ceux qui sont en haut, connaissent tout le langage. Ils sont des hommes de culture. Et c'est les autres qu'ils veulent dominer. Je ne pense pas qu'il faille dominer les autres, mais quand on possède le langage, on ne peut plus l'être dominé. Et je pense que c'est dans ce livre, j'ai utilisé toute la langue que je connaissais. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arriver à une sorte de non-mépris, je dirais, du lecteur. Et le mépris du lecteur, c'est d'essayer d'aller vers lui. La littérature n'a pas à aller vers le lecteur, comme la peinture, d'aller vers les spectateurs. Simplement, les musées sont ouverts et les librairies aussi. Mais je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit faire un effort pour aller. Le plaisir est à ce prix. Je pense qu'on n'a pas à être en concurrence avec la rumeur générale.
Je pensais au 18e parce que, et aux liaisons dangereuses, parce qu'évidemment, c'est une œuvre majeure où le mot qu'on maîtrise à la perfection sert à tuer. Hein. On tue d'un mot, on tue d'une lettre, et on rend publique la lettre. Vos personnages y pensent à cette publicité, comme on disait au 18e, en disant voilà, détruisez la lettre ou je détruirai votre lettre dans la douche. Et précisément, vous parliez tout à l'heure de la mafia, du fait que le papier, la correspondance physique, au fond, n'est plus utilisée qu'à des fins secrètes. C'est le cas ici, puisqu'il s'agit aussi d'un projet criminel. Est-ce qu'il y a la même dimension qu'au 18e siècle, cette importance accordée au mot dans sa dimension mortel, on peut tuer d'un mot comme on tue d'une balle.
Je pense que surtout, il y a la dimension du langage, ça leur permet d'aborder des sujets qui sont extrêmement difficiles à aborder sans langage. C'est-à-dire, elles parlent de l'amour, par exemple. Or, l'amour, sans le langage, on ne peut pas en parler. Ou alors, on arrive à des choses tellement primaires que ça ne sert plus à rien, non pas d'aimer, mais d'en parler. C'est comme parler de la mort, ou parler de l'au-delà, ou parler de ce genre de sujets comme le néant, qui sont des créations de l'homme. Le néant, on l'a jamais vu, l'amour non plus. Ce sont des créations de l'homme. L'homme les a créées grâce au langage. L'amour humain, c'est un amour passion qui n'est pas l'affection des chats, que des chatons peuvent avoir les uns pour les autres dans une corbeille, par exemple.
Alors, quand on regarde les grandes œuvres épistolaires, qu'on pense aux Lettres persanes de Montesquieu, La Nouvelle Héloïse, Rousseau, chez Crébillon aussi, Laclos, on en a parlé. Tous ces romans épistolaires étaient un moyen de dénoncer aussi les vices d'une certaine société. Est-ce que la forme de la lettre a conditionné chez vous aussi, Régis Geoffrey, le fait de vouloir dénoncer au fond une façon très correcte de penser de la société contemporaine, puisque c'est aussi l'occasion pour vous, cet échange de lettres, de multiplier les provocations à l'égard du bon goût, de la morale, de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas, dans une société où on est aujourd'hui à l'affût du moindre écart. Je vous cite, hein, rien de tel que la haine partagée pour sceller un couple, l'amour est un con, manger ses enfants, je crois bien que c'est le fantasme enfoui de beaucoup de mères, avoir un fils est un malheur, enfanter une femelle doit être une catastrophe, et j'en passe.
Oui, il y a une liberté absolue, mais parce que ce sont pas des gens comme nous. Les autant Geoffrey est un pauvre homme comme vous et moi, pardon pour
Geoffrey,
vous mais comme moi.
Geoffrey,
G-E-O-F-R-E-Y. Autant ces deux femmes sont des femmes extraordinaires au sens propre du terme, parce qu'elles ont été élevées au XVIIIe siècle ou je ne sais quel siècle. Elles ont une éducation qui n'a rien à voir avec la nôtre, et surtout elles ont des préoccupations qui sont des préoccupations qu'on imagine être celles de femmes qui seraient dans un château au XVIIIe siècle, enfermé l'hiver avec de la neige partout. Mais ce sont des femmes qui n'ont pas les préoccupations terre à terre que nous pouvons avoir. Ou alors, elles, si c'est les préoccupations terre à terre, elles les prennent à un tel niveau que ça n'en sont plus. Voilà, c'est les personnages, je dirais, luxueux. Mmh. Voilà, par rapport à nous-mêmes qui ne sommes pas des personnages de luxe, mais des personnages qui sommes dans l'ordinaire, dans la vie ordinaire dans laquelle on se débat.
Et pourtant, elles en ont hein, des préoccupations. L'eau à la bouche, je me réveillais chaque nuit pour concocter des sauces qui mijotaient jusqu'au matin. Je n'attendais pas midi pour en napper un rôti de veau, une pintade, un poussin. En fermant les yeux, j'imaginais savourer tes joues, ton gras bidon ou les rognons de ton sexe. Je me faisais une fête de la partie de campagne où nous nous livrerions à des agapes anthropophages dont tu serais l'esclave immolé sur l'autel de quelque dieu sanguinaire, gourmet, dont nous dégusterions en son honneur le repas. Elles en ont quand même, il faut que les choses soient bien. C'est très luxueux, c'est vrai.
Voilà, parce qu'elles ont... Non, en réalité,
ça vous choque pas,
c'est la dimension du fantasme.
Elisa Georgieva.
Ça m'étonne.
Cette cruauté tout à fait 18e, réincorporée dans le 21e siècle.
Bah, disons que j'étais déjà un petit peu préparée, puisque j'ai lu d'autres romans de Régis Geoffrey, donc je savais à quoi m'en tenir. Après... Je pourrais difficilement me reconnaître peut-être dans ces personnages, mais peut-être tant mieux. Enfin, j'espère qu'aujourd'hui, les femmes ont plus de préoccupations que le menu d'une recette. Mais...
Ah ouais, enfin, c'est manger son ex-mari. Enfin,
oui,
je
sais.
Voilà, c'est pas anodin.
Non, mais j'ai beaucoup rigolé par moments.
Pourquoi avoir choisi l'angle de la haine pour parler d'amour, Régis Geoffrey?
C'est-à-dire qu'en réalité, ces femmes sont dans la passion, elles s'intéressent à la passion, et la passion, comme chacun sait, mène au crime passionnel parfois. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus tranquille et de beaucoup plus difficile et de beaucoup moins tentant. On est beaucoup plus tenté par la passion que par l'amour.
Vous avez fait comment pour travailler sur le ton, le style de chacune des correspondantes, au fond?
Techniquement, c'est une façon assez naturelle pour moi de m'exprimer. Simplement, ce que je voulais essayer d'avoir, c'est d'atteindre ma perfection. Je dis pas la perfection. Essayer de pousser ma perfection jusqu'au bout. C'est-à-dire cette espèce de perfection quand la langue française arrive à être écrite à peu près comme il faut l'écrire. Elle a peu de mots, elle est très compliquée. On a au contraire quelque chose de très simple et on a une transparence. On a quelque chose de cristallin parce que on a le mot qui devient la chose qu'il dit exactement. Moi, ça a été ma recherche. S'il y a une recherche, c'est celle-là. Ça a été une recherche finalement. Vous savez, c'est un peu comme le coup de sabre du samouraï. On ne sait pas du tout comment c'est fait. Ben, au bout d'un moment, parce que j'ai écrit très souvent, beaucoup de fois, je suis arrivé à quelque chose qui se rapprochait de ce que je pouvais moi faire. Voilà, c'est pas la perfection, c'est ma perfection à moi. Ça n'a rien à voir.
Ma perfection à moi. Qu'est-ce que c'est bien dit. Je vous cite une dernière fois parce qu'il y a une attaque absolument terrible. Je n'ai pas compris Régis Geoffrey, donc il faut que je vous interroge là-dessus. Il y a un passage où en fait donc les femmes s'écrivent et l'une d'elles explique à l'autre. D'ailleurs c'est Jeanne, donc c'est la mère. À trop correspondre, puis j'espère que Elisa ne se sentira pas visée, à trop correspondre, fasse le ciel que nous ne finissions par dégénérer en romancière. Déjà, la métaphore ronge nos lettres et pour une raison qui m'échappe, nous partageons toutes deux la manie de jouer avec nos têtes. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est, on dirait, les accusations tournées, lancées contre ce qu'on appelait les bas bleus à l'époque, qui étaient terriblement misogynes.
Pas du tout, non, y a pas...
Qu'est-ce que c'est que dégénérer
non,
en
non,
romancière?
Non, il n'y a pas du tout l'ombre d'une histoire qu'elles sont, en romancière parce qu'elles sont des femmes. Non, parce que sont des femmes. Non, alors là, il n'y a pas du tout cette. Et puis pour le roman précédent, on m'a accusé de féministe, vous n'allez pas m'accuser de. Non, j'ai pas du tout ce problème-là.
Non, mais on est dans la fiction, mais c'est une femme.
Non, mais là, c'est une femme. Non, c'était pas au sens romancière.
Peut-être que les femmes sont misogynes.
Non, c'est au niveau romancier, c'est-à-dire qu'elles sont dans le mépris en réalité de ce qu'elles sont en train de faire dans le livre, c'est-à-dire dans le mépris de l'imaginaire et dans le mépris de la réflexion et dans le mépris de la métaphore, ce qu'elles sont en train de faire. Mais souvent, on est dans le mépris de ce qu'on est et sans le savoir.
Est-ce que vous cultivez, vous, en tant qu'écrivain, le mépris de la métaphore ?
Ah non, moi, la métaphore, c'est mon ADN. Donc, la métaphore, pour moi, c'est la littérature, en tout cas, telle que je l'entends. Et je reviens à la langue. La langue française en a un besoin terrible parce qu'il y a très peu de mots, justement. Donc, c'est par la métaphore qu'on arrive à préciser les choses et c'est par la métaphore qu'on arrive à les faire apparaître. C'est-à-dire que c'est le contraire de la langue inuite où il y a 35 mots, je ne sais plus 40, pour désigner la neige. En français, on a pour beaucoup de choses, on n'a vraiment qu'un mot. Donc, pour arriver à faire comprendre ce qu'on veut dire et à ce qu'on le voit, il faut l'entourer d'une sorte de faisceau et je dirais, c'est comme un petit système solaire. Il faut qu'il y ait des planètes autour. Et la métaphore, ça peut être cette façon de préciser la notion dont on veut parler, en fait.
Je pense que c'est en votre honneur que Régis Geoffrey, Elisa Georgieva, a parlé de planète, hein, puisque on pense tout de suite au véritable héros de votre livre, qui est Youri Gagarine, quand même, ce grand cosmonaute, hein, parce qu'il ne faut pas dire astronaute.
Oui,
ça vous touche, j'espère.
Bah, merci beaucoup pour voilà. Ce petit renvoi.
Voilà, après ce qu'il a dit sur les romancières. Enfin, pas lui, ce personnage.
Il se rattrape bien.
C'est scandaleux. La façon dont vous tournez les choses est scandaleuse.
Non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Cannibal. Et j'aime beaucoup aussi votre roman, votre premier roman, Elisa Georgieva. On va en parler tout de suite. Donc, les cosmonautes ne font que passer. Même côté fantasy, en moins noir que chez Régis Geoffrey. Mais au fond, assez terrible. Hein, au fond, ce livre, sous sa gaieté apparente, c'est une petite fille en fait à laquelle vous vous adressez. On va parler aussi de la forme, puisque vous avez choisi l'adresse à la deuxième personne du singulier. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi, alors il faut nous expliquer, hein, Alabala de la chanteuse Milena. Alors, donc, qu'est-ce que c'est, un chant bulgare ?
Alors, oui, elle est bien bulgare et en fait, c'est une chanson qui est très, très emblématique pour les années 87, 88, 89. C'est un petit peu le hymne de la perestroïka, on va dire.
Très bien, on écoute. Alabala, de la chanteuse Milena, le groupe Revu, c'est ça ? Revu, ou je
oui,
sais pas
le groupe s'appelle Revu, hein. Ouais. C'était l'un des premiers groupes punk, ska-punk en Bulgarie, même si la langue de bois communiste les avait tendrement appelés un collectif de jeunes musiciens à tendance rock. Voilà, donc c'est très fin. Et donc Milena était par contre très très punk dans son apparence. Et voilà, c'est une des premières à avoir effrayé les gens avec une telle esthétique sur scène. Et en même temps, voilà, son chant, ses quelques chansons sont devenues très très populaires. Et les jeunes de l'époque, je pense qu'ils les écoutaient beaucoup. Mais encore aujourd'hui, on écoute avec un grand plaisir Milena.
Et vous écoutiez ça donc quand vous viviez en Bulgarie ?
Oui, moi je l'ai découvert beaucoup plus tard puisque j'avais 5-6 ans quand elle a commencé à percer, donc j'étais un peu trop jeune pour apprécier
pour être
le punk.
Ouais. Ouais. Enfin, on n'est jamais trop jeune. En même temps, Elisa Georgieva, Les cosmonautes ne font que passer, qui est publié chez Vertical, c'est votre premier roman. Dans ce texte, le lecteur découvre la Bulgarie soviétique puis post-soviétique, vue à travers les yeux d'une enfant qui va devenir une adolescente. Quand on commence le livre, la petite fille qui n'est jamais nommée, qui est toujours désignée par « tu hein, », c'est comme ça que vous la décrivez, que vous racontez hein, à la deuxième personne du singulier. Cette petite fille va entrer à la grande école. Son nouvel établissement porte le nom de Youri Gagarine, hein, le grand cosmonaute qui devient son héros. C'était un héros soviétique. Elle sera donc, comme lui, cosmonaute, c'est ce qu'elle décide. Et elle dit tu vas devenir Youri Gagarine et adhérer à la conquête spéciale, car ta famille n'a pas vraiment besoin de toi sur Terre, et par conséquent, rendre ton grand-père communiste émérite enfin heureux. Malheureusement, et l'héroïne le sait, chaque héros a besoin d'épreuves, et non seulement une fille ne peut pas être Gagarine, mais surtout, le mur de Berlin tombe, et avec ce mur, celui des certitudes. Elle est collégienne dans une Bulgarie qui s'ouvre, notamment au robinet à clips musicaux MTV. Elle découvre le chanteur du groupe Nirvana, Kurt Cobain, un cosmonaute à sa façon, nouvelle idole. Et puis ça va être, c'est le deuxième temps du livre, le temps d'une Bulgarie post-soviétique et proto-punk. Hein, on en a parlé avec cette chanteuse qu'on vient d'écouter. Le chaos guette, la folie du grand-père aussi. Et le temps de l'exil peut-être, puisque celle qui voulait être cosmonaute va devoir peut-être passer à l'ouest. Et vous voilà aujourd'hui, Eliza, avec nous. C'est ça, c'est la construction en deux temps, l'enfance, l'adolescente, scandée par cette rupture de mur. C'était la structure de toute façon qui était prévue quand vous vous êtes lancé dans ce premier livre.
Oui, alors au tout début, j'avais très très envie de raconter d'abord cette période autour de 89, à ma manière, enfin telle que je l'avais vécue donc à l'âge de 6 ans. Donc forcément, d'emblée, il y avait cette idée de décalage et de voilà d'une absurdité augmentée par l'impossibilité de la petite fille d'interpréter correctement les phénomènes politiques. Et ensuite, oui, j'avais très envie finalement d'aller jusqu'au bout, puisque ces mouvements, ce paysage, ce climat de changement très très intense a duré à peu près 10 ans, beaucoup plus longtemps que dans les autres pays. Donc ça va jusqu'à 97. Ouais.
Et dans la structure du livre, il y avait ce marqueur, donc 89, fin du mur de Berlin, qui fait basculer un monde dans un autre, comme deux parties d'un livre presque, qui se refermeraient.
Oui, il y a une ellipse au milieu, et donc après on retrouve la petite fille qui a déjà 13 ans. Et en fait, oui, j'avais besoin de construire ces deux mondes avec tous leurs éléments très, très différents pour justement qu'on ressente ce choc et ce paradoxe par le conflit des deux univers.
On va vous écouter lire, Eliza Georgieva, donc un extrait « Tes cosmonautes ne font que passer ». Donc Youri Gagarine vient de mourir, elle ne comprend pas pourquoi.
Tu n'acceptes pas de croire que Youri ait pu mourir si vainement et tu le communiques à ton entourage. Tu préfères t'en tenir à la version de la voyante bulgare Vanga, phénomène national paranormal et référence sûre selon ta mère, qui avance un enlèvement par des extraterrestres. Tu n'as jamais vu d'extraterrestres, sauf dans la revue Cosmos, que ton père cache au fond du placard connu pour ses difficultés d'accès, afin de ne pas déranger ton esprit, déjà trop fantaisiste à la base, avait-il dit avec dédain. Tu soupçonnes qu'en réalité, il ne veut pas partager son seul loisir du dimanche, et tu es dégoûté par tout cet égoïsme qui se niche dans ta famille. Tu profites d'une des séances de blagues dans la salle de bain pour te documenter sur les questions. Les dessins de la revue ne sont pas vraiment rassurants. Dans la chronique intergalactique, des chevaliers cosmiques de la galaxie Occidenta poursuivent des petits enfants innocents pour les transformer en une sorte de champignon nécessaire à la production d'oxygène sur leur planète. Les chevaliers sont particulièrement effrayants à cause de leur corps vert et entièrement dévêtu, leurs 5 pieds et 13 mains, leur tête surdimensionnée à un seul œil, rouge et vide, leur cou étrangement long, et tu présumes que leurs espèces ne possèdent pas d'amygdale. Tu penses à Youri qui ne doit pas se sentir bien dans une telle compagnie, et tu crains que son âme pure soit souillée à jamais s'il reste longtemps auprès d'eux. Ton projet croit, te procurer un parachute et un scaphandre, planter 2-3 sapins et entraîner ton indestructible chien Jockey à la carrière spatiale, et récupérer Youri en combattant les chevaliers sans amygdale. Tu crois pouvoir le sauver.
Merci Eliza Georgieva pour cette lecture. C'est vrai qu'on vous soumet à un exercice difficile, la lecture à haute voix, voilà, c'est pas forcément plus
oui,
simple.
Moi j'aime beaucoup lire à haute voix, mais c'est vrai que cet extrait-là, je le lis rarement. Je me demandais d'ailleurs pourquoi vous l'avez choisi.
Alors, je l'aime beaucoup cet extrait parce que justement, c'est tout à fait dans le thème, c'est-à-dire que la fantaisie vient répondre à un manque. Une mort réelle, mais sans signification de son héros, à la fois réel, Youri Gagarine, mais imaginaire, puisqu'elle a projeté énormément de choses sur lui, notamment son avenir. Elle se rêve cosmonaute. Et du coup, comme elle n'arrive pas à expliquer cette mort, elle échafaude des théories complotistes. D'ailleurs, son grand-père lui dit qu'il a probablement été tué par les Américains. Hein. Alors, je ne sais pas si c'était l'information qui courait ou la rumeur qui courait en Bulgarie à l'époque. Donc, j'aime beaucoup ce passage où voilà, l'imaginaire vient combler un manque et la fantaisie aussi combler ce vide. Et au fond, je vous citais la parole du grand-père hein, qui est cité juste avant, qui dit qu'il a été, je le cite, probablement, il s'agissait probablement d'un meurtre prémédité par les Américains. Au fond, à la fantaisie des adultes répond totalement celle des enfants, en fait, dans cette Bulgarie sous cloche.
Oui, il y a un grand décalage, justement, entre les adultes et elles, même si, parfois, curieusement, elle se retrouve, sur certains points, au même endroit que son grand-père communiste émérite, qui, lui aussi, croit à la propagande au premier degré. Donc, ils se regardent ensemble avec beaucoup de plaisir un film soviétique qui raconte la grande vie de Yuri Gagarine. Et puis, oui, c'est vrai qu'il y avait toute cette théorie autour de Yuri Gagarine. Rien n'était très clair. En plus, en 89, on commençait à dire qu'en fait, il n'a pas vraiment effectué son vol spatial comme il le fallait, puisqu'il a été éjecté de Vostok au moment de l'entrée de l'atmosphère. Et du coup, voilà, ça ne s'est pas passé comme il fallait, en tout cas. Donc, il était moins héroïque, beaucoup moins héroïque.
Il vous a fait rêver, Régis Geoffrey, Yuri Gagarine?
Oui, beaucoup. Ouais. Oui, Yuri Gagarine, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je m'en rappelle encore quand on disait qu'il tournait autour de la Terre. Oui, il y a deux événements quand j'étais enfant qui m'ont marqué au point que je me souvienne du moment où je les ai appris. C'est Yuri Gagarine et la mort de Kennedy.
Oui, c'est ça, les deux événements fondateurs. Alors, Elisa Yorgieva, j'ai posé la question tout à l'heure à Régis Geoffrey sur la forme. Hein. Il avait choisi, lui, pour cette fantaisie noire, la forme épistolaire, une forme très 18e, même plus ancienne que le 18e, au fond. Vous avez choisi, vous, cette adresse à la deuxième personne du singulier. Alors, évidemment, ça fait penser à la modification de Butor, Un homme qui dort. Il y a quelques livres, hein, comme ça, dans la littérature française ou italienne. Hein, Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Plus récemment, Le journal d'un oiseau de nuit de Gemma Kinnearney. Et c'est vrai qu'avec cette deuxième personne, on a l'impression qu'une conscience, en fait, observe. Il y a une distance qui est mise, qui permet justement à toute la fantaisie d'entrer. Pourquoi ce choix de cette deuxième personne ?
Effectivement, moi, en fait, au départ, je l'avais choisi un peu spontanément. J'avais beaucoup de lectures aussi qui étaient la deuxième personne. Et donc, ça a dû m'influencer. Mais en vrai, j'ai tout de suite senti que ça apportait cette distance nécessaire, comme vous dites, et que ça augmentait justement l'humour. Après, je me suis rendu compte que il y avait un document que je consultais de temps en temps et au tout début, quand j'ai commencé à écrire cette histoire, c'était un journal que mon père avait écrit pour moi quand je ne savais pas écrire, donc à partir de mes 3 ans. Et il avait noté beaucoup de faits en s'adressant à moi, en disant « Aujourd'hui, tu as été insupportable ». Bon, c'était souvent ça.
Quand vous étiez petite, récurrent. En fait, il racontait, il tenait un journal pour vous.
Oui, exactement.
Comme certains présidents de la République l'ont fait pour la femme qu'ils aimaient.
Oui, voilà, non, mais je pense que lui s'amusait à noter mes questions absurdes, voilà.
Ça vous a servi de matériau de travail, justement, ce journal du père ?
Alors, je n'aimais pas le consulter très souvent, puisque c'est très très bizarre de consulter sa propre enfance. C'est comme si ça ne nous était pas vraiment arrivé, puisque la plupart des choses mentionnées, je n'avais évidemment aucun souvenir. Et puis j'étais un petit peu déçue de voir que j'étais insupportable à ce point. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça m'a servi parce qu'il a décrit certains faits, y compris ce jour de la chute du mur de Berlin. Et voilà, d'autres. Et comme en fait, on a vécu ce changement politique, il y a eu plein de choses qui ont changé dans mon quotidien. Par exemple, j'ai vécu mon premier Noël à l'âge de 8 ans. Donc, il a noté ces grands moments. Et voilà, donc je pense que cette adresse à la deuxième personne, c'était assez confortable. Et en même temps, voilà, ça permettait d'ouvrir un champ où l'autofiction pourrait s'installer.
Où l'autofiction pourrait s'installer avec cette deuxième personne, plus qu'avec un choix de première, d'écrire au jeu.
Oui, je pense que, en fait, bien sûr qu'on peut très bien écrire des romans autofictifs à la première personne, et il y en a plein. Mais c'est vrai que sur le moment, je sentais qu'en fait, le jeu était pour moi, en fait, je me sentais moins bien, puisque j'avais l'impression que ça amenait quelque chose de plus premier degré, plus autobiographique, et que j'avais très envie de rester dans ce tu un peu plus flou.
Exactement. Alors, dans ce roman, je citais Cocteau à l'orée de cette émission, Cocteau qui disait « L'enfant croit ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute ». Mais en fait, c'est un peu le contraire qui se passe chez vous, Elisa Georgieva, puisque le doute s'installe toujours entre le vrai et le faux. Je vous cite « Ton grand-père est communiste, un vrai, te dit-on plusieurs fois, et tu comprends qu'il y en a aussi des faux. C'est comme avec les Barbie et les baskets Nike. effectivement, s'il y a des vrais communistes, c'est que sous-entendu, il y en a des faux. Et dès le début, ce que vous montrez assez bien, c'est qu'on a beau être une enfant de 7 ou 8 ans, au fond, on comprend qu'il y a une frontière pas nette entre la réalité et ce qui n'est pas réel dans ce monde soviétique. Et je voudrais vous demander si, au fond, ce bloc de l'Est, hein, dans lequel vous avez vécu et qui sert de décor, presque de personnage principal à votre premier roman, n'était pas aussi une magnifique usine à fiction. Souvent, Régis Geoffrey parlait de Kennedy, là, à l'instant, c'est vrai, l'Amérique a été une machine à fiction, mais ce bloc de l'Est, aussi fantastique réservoir à mythes, à fiction, à imaginaire, au fond.
Oui, c'est vrai que c'est un univers très très riche et surtout très propice et très stimulant pour une personne qui est en train de se construire, voilà, dans un monde qui est en train de se déconstruire. Mais du coup, on était obligé, je pense même dans la vraie vie, d'être plus inventif, d'aller plus loin et d'être plus attentif aux choses qui nous entourent. Et vous dites ce débat entre le vrai et le faux. Je pense que c'est un grand débat qui divise encore aujourd'hui les Bulgares, puisqu'on en revient toujours à parler de ses grands-parents et de dire ben moi, mon grand-père, il était communiste, mais c'était un vrai, c'est-à-dire qu'il n'était pas un nomenclatura, il n'a pas profité du système, etc. etc. Après, oui, elle est quand même, souvent, elle accepte la propagande au départ, donc elle va croire quand même ce qu'on lui raconte, même Yuri Gagarin, qui était peut-être sympathique, mais il a aussi servi à la propagande, comme on le sait. Et c'est vrai qu'elle n'aura pas la distance nécessaire pour le savoir, en différence de ses parents, qui en vrai se moquent un peu de Yuri Gagarin en ce moment-là. Donc en fait, il y a quand même ce décalage. Et puis petit à petit, elle va commencer à explorer ses faits et à devenir moins naïve, mais justement en relevant des paradoxes de langage.
Il y a juste une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, ce qui est très très bien fait aussi dans votre texte, c'est l'absence de hiérarchie. Au fond, comme c'est décrit avec les yeux d'un enfant, quand le mur de Berlin tombe, en fait, c'est aussi important, et peut-être un peu moins important même, que la soupe aux petits choux que le chien a terminé à sa place.
Qui est d'ailleurs son partenaire de mission, puisque oui. C'est aussi un futur cosmonaute et un grand punk, comme on le voit après.
Oui, un punk à chien, évidemment, il faut toujours un chien pour un punk à chien.
Voilà, sauf que c'est un chien qui fait un peu moins peur. Voilà, mais oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire d'absence d'hiérarchie. Je pense que c'est quelque chose qui peut-être est propre aux enfants. En tout cas, moi, je me rappelle que ce jour-là, effectivement, j'avais d'ailleurs noté avec des phrases très simples ce qui s'était passé, puisque j'avais senti que c'était un moment important. Et j'avais mis que ce jour-là, j'étais malade, que ma grand-mère était venue jouer avec moi, que le président était chassé et que maman était très contente. Et quand il n'y avait qu'une seule phrase sur le président et trois phrases sur ma mère, ma grand-mère, etc. Donc forcément qu'un enfant ne peut pas forcément s'expliquer les choses, mais le plus important, c'est la joie des adultes.
Elle a parlé, Régis Geoffrey, d'autofiction, et elle dit « je », même si c'est « tu » dans votre livre, Elisa Georgieva. Un dernier mot pour conclure, Geoffrey. Donc cet homme qui va être dévoré par ses femmes, en tout cas elles ont le projet de le dévorer, il s'appelle Geoffrey, G-E-O-2-F-R-E-Y, et non Geoffrey, J-A-U-2-F-R-E-T, n'empêche que, surtout quand on le lit à haute voix, on s'y trompe. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Ah ben, les romans d'amour sont toujours autobiographiques et les romans sur l'amour aussi. On peut pas. On est toujours concerné. Soit on aime, soit on n'aime plus, soit on a aimé, soit on n'a jamais aimé. Et donc l'amour existe en creux. C'est un sentiment humain. Donc évidemment que ce livre est autobiographique. Il ne peut pas en être autrement.
Voilà. C'est le cas pour vous aussi ?
Moi, c'est un peu pas exactement vrai, puisque j'avais vraiment un chien jockey, ouais. Mais il n'a jamais voulu être cosmonaute.
Et en même temps, il ne peut en être autrement, tout roman.
C'est pas ce que je croyais à 7 ans, en tout cas.
Bon, très bien. Il vous reste encore du temps, heureusement. Merci d'avoir participé à ce temps des écrivains, qui nous a permis de parler de littérature, d'histoire, de la façon dont la littérature la tord, cette histoire, qu'elle soit épaulée par la réalité ou surgit d'un cerveau en ébullition. Histoire de la violence, évidemment, aussi. Je rappelle les références de vos livres. Elisa Georgieva, Les cosmonautes ne font que passer. C'est chez Vertical. Et Régis Geoffrey, Cannibale, c'est publié au Seuil. À très vite. Merci à vous.
Merci.
Merci.
C'est C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine pour son conseil de lecture. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le site livrehebdo.fr. Nous sommes cette semaine avec Philippe Boizeau de la librairie Le Comptoir des Mots qui se trouve à Paris dans le 20e arrondissement, 239 rue des Pyrénées. Bonjour Philippe Boizeau.
Bonjour.
Alors vous êtes venu avec une découverte, un auteur vraiment que vous tenez à nous faire lire. Il s'appelle Reinhard Jergle ou Jergle, je ne sais pas, J-I-R-G-L.
Je n'ai pas fait allemand, je ne peux pas me
prononcer. Voilà, j'ai fait un petit peu d'allemand, mais j'avoue que là, je sèche un peu. Ça s'appelle Le Silence, c'est publié chez Kidam Éditeur, c'est traduit de l'allemand et annoté par Martine Raymond. Et c'est un auteur d'ailleurs que vous recevez dans votre librairie très bientôt.
On est très content de recevoir le 17 novembre,
le 17 novembre.
Au Comptoir des Mots. Parce que ça va être l'occasion de briser le silence autour de l'œuvre de Reinhard Jergle, qui est pourtant l'un des auteurs les plus importants de langue allemande de sa génération.
Alors pourquoi vous trouvez que c'est le plus important? Alors, l'un des plus importants.
Il y a chez Jergle une première surprise, c'est l'écriture, le style qui est flagrant. On ne ressort pas indemne d'un livre de Jergle et on le reconnaît tout de suite. En l'occurrence, le silence s'impose d'abord par sa taille, ça fait 600 pages, par l'ampleur de son histoire qui est une saga familiale qui recouvre 100 ans de l'histoire allemande. Sur plusieurs générations, donc depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la réunification pour les années 2000. Et donc ce fameux style Jergle, cette langue un peu différente, avec laquelle Jergle prend un malin plaisir à nous réveiller en tant que lecteur, avec des inventions orthographiques, avec des interventions de mélange de mots, de recomposition de mots, un jeu avec la typographie, la police de caractère, avec des symboles plus égales intégrés dans le texte, qui décompose un peu la lecture.
C'est pas difficile pour autant, je veux dire, ce style-là, vous nous dites, voilà, il y a des indications typographiques, des mots...
Mais c'est ce qui est magique et impressionnant avec Jergle, c'est que c'est pas du tout un frein à la lecture, au contraire, ça l'accompagne, et fortement et puissamment, ça nous donne une espèce d'oralité littéraire mélangée avec la langue réelle de Jergle, qui est d'un classicisme très très beau et très puissant. Moi je trouve ça vraiment éblouissant, ce mélange-là. Jergle, en un mot, c'est une langue magique, aux accents immédiatement reconnaissables.
Et alors, vous nous parliez d'une saga familiale sur plusieurs décennies, d'un livre de 600 pages aussi. On arrive à se repérer, visiblement oui, hein, puisque vous adorez, les différents personnages.
On arrive très bien. On a un arbre généalogique en début d'ouvrage. On a des photos qui nous guident dans la lecture, puisque c'est comme si on feuilletait l'album photo de la famille. Et on a aussi, de toute façon, une histoire qui se met en place malgré nous, de toute façon, et de façon presque chronologique, malgré la construction. Le premier narrateur va retrouver son fils, qu'il écrit entre guillemets. On voit tout de suite qu'il y a un problème de ce côté-là, pour lui remettre cet album de famille. Le fils va partir s'exiler aux États-Unis, pense voir son père pour la dernière fois, et a demandé à voir le chien. Ça commence avec cette ironie assez féroce, ça se poursuit tout du long, on traverse l'histoire avec toutes ses vicissitudes. On a affaire aux histoires de mort, d'amour et de haine qui sont emblématiques de la famille d'après Jergle, les obsessions de chacun, leurs manquements. On a affaire à une lignée d'hommes qui ont tous une propension à la fuite et une lignée de femmes qui assument leur rôle. C'est un fabuleux voyage dans le temps subjectif de cette famille.
Merci beaucoup Philippe Boizeau. Et donc il vient dans votre librairie, donc avec sa traductrice, comment ça va se passer?
Avec Martine Raymond qui fait un travail extraordinaire, il faut vraiment citer et saluer son travail. Ils viendront tous les deux nous parler du texte, ça sera un échange très riche et on est très content d'inviter tout le monde à cette soirée.
Le 17 novembre,
17 novembre.
Voilà la découverte d'un auteur allemand, visiblement parmi les plus importants, je n'ai pas lu encore, je dois l'avouer.
Un grand.
Jergle Reinhard de son prénom, mais je vais le faire grâce à vous. Merci Philippe Boizeau. Le Comptoir des Mots, c'est 239 rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement à Paris. C'était Le Temps des Écrivains avec Avril Ventura, Anne-Laure Chanel et à la technique Bernard Lagniel et Catherine Déreté. Vous savez que vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr. 7 heures passées avec Régis Geoffrey et Elisa Gorgieva.